Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous êtes sur 48FM, ce journal vous est présenté par Amélie Huppert.
Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité, ce matin, un Conseil national de sécurité s'est tenu jeudi. Yoline Olivier nous expliquera les décisions qui ont été prises. La COP30 débutera au Brésil la semaine prochaine, l'occasion de s'interroger sur son utilité. Et enfin, le micro-festival a lancé son 21e micro-show hier soir, Simon Loire s'y est rendu. Le Premier ministre Bart De Wever avait menacé de démissionner si un accord sur le budget n'était pas trouvé avant jeudi. Finalement, il n'en est rien. Il s'est rendu au Palais Royal hier à 13h avec une requête. « Sire, donnez-moi 50 jours ». Le roi a accepté. Un allongement de délai qui nous apportera peut-être un accord budgétaire sous le sapin. Un autre sujet brûlant cette semaine, ce sont les nombreux vols de drones survenus au-dessus de bases militaires et aéroports belges. Yoline Olivier, un Conseil national de sécurité s'est réuni hier pour prendre des décisions.
Le Conseil s'est réuni jeudi matin pour faire le point sur la situation. Ils ont décidé de travailler sur trois axes, la détection et l'identification de drones, mais aussi la mise en place de méthodes d'intervention en cas de survol d'une zone interdite.
Et pour détecter les drones, ils ont mis en place un Centre national de sécurité de l'espace aérien.
Tout à fait. Auparavant, cela existait que pour la marine. Ce projet devrait être opérationnel d'ici le 1er janvier. Le but est de réunir tous les services et d'avoir une vision globale de la situation.
Détecter les drones, c'est bien, mais qu'ont-ils décidé pour leur permettre de les identifier ?
Un arrêté royal est en cours d'élaboration afin d'interdire le survol de drones non enregistrés dans des zones sensibles. Il faut savoir que pour le moment, les pilotes sont enregistrés, mais pas les drones. En d'autres termes, un drone non enregistré près des zones sensibles sera considéré comme un ennemi.
Et comment intervenir si des appareils ennemis sont détectés ?
Des textes législatifs vont être rédigés pour faciliter l'intervention de la police en cas de survol de zones sensibles civiles. L'OTAN a également apporté son soutien au pays. Malgré le CNS, des drones ont encore survolé les aéroports de Bruxelles et Liège hier soir. Le trafic a été interrompu à plusieurs reprises entre 21h30 et 1h du matin. Selon Atlas News, des drones auraient également été repérés près de la centrale nucléaire de Doel et aussi du centre de recherche nucléaire de Mol. L'armée allemande a annoncé son soutien et son aide à la Belgique pour renforcer la défense anti-drones.
Merci Yoline pour ces précisions. Restons en Belgique. Ça a été annoncé hier. Ce lundi 10 novembre, une grève de l'enseignement obligatoire est prévue. Elle vise à protester contre les mesures du gouvernement Arizona. Yoline Olivier.
Ces derniers jours, les professeurs de l'école Saint-Barthélemy à Liège s'étaient installés devant l'école. Sur leur banc, ils ont commencé à corriger les copies. Un symbole fort, synonyme de contrer la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles de les faire travailler 2 heures de plus. Les enseignants estiment que le gouvernement ne prend pas en compte les heures de correction de copies et de préparation des cours à domicile. Martine Evraud, représentante syndicale à l'Université de Liège, assure qu'il n'y a pas que ce point-là qui sera défendu lundi.
Le gros point, c'est que les enseignants ne seront plus des fonctionnaires. Donc, ils ne seront plus nommés, mais ils seront contractuels. Le principe de la fédération, c'est faire des économies. Et dans ce cas-là, clairement, il n'y a pas d'économie.
Depuis la mise en place du gouvernement Arizona, l'Université de Liège a engagé le groupe Université en colère. Ce mouvement s'est élargi à l'ensemble des universités, ainsi qu'à Enseignement en colère.
On considère aujourd'hui qu'on est de la maternelle à l'université en colère.
Un mouvement qui ne faiblit pas. Tous et toutes s'associent et s'investissent.
Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu avec ce gouvernement une prise de conscience de leur volonté.
Fin novembre, 3 jours de grève sont annoncés. Celle du mardi concernera le service public, dont l'université. Une assemblée générale a lieu ce vendredi avec une nouveauté.
Cette nouveauté qu'on a, c'est collaboration sans couleur. Donc ici, on ne participe pas à une couleur, on participe à un mouvement.
Une grève pour les enseignants, mais qui touchera finalement tout le monde.
La foire de Liège se termine la semaine prochaine, l'occasion de tirer le bilan de cette édition 2025. Une édition marquée par la mise en circulation du tram et plusieurs intempéries. Sacha Baquet s'est allé à la rencontre de plusieurs forains pour récolter leurs sentiments.
La grande roue aura moins tourné cette année à la foire de Liège. Cette édition 2025 aura été marquée par l'annulation de 2 journées pour cause de mauvaise météo. Pour Delforge Kurde, gérant de l'attraction La Suisse, 2 journées annulées correspondent à 2 jours de manque à gagner.
2 jours de moins, ça sera toujours 2 jours de moins, surtout un samedi et une grosse journée à tarif réduit qui était prévue à long terme. Quand on a bougé la date du tarif réduit 2 jours, Après, bon, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, donc on a perdu effectivement. Mais voilà, ça c'est un peu... on ne sait rien y faire, quoi. On le prend en compte, c'est tout.
Cette année, les forains ont dû composer avec un nouvel élément, le tram, une nouveauté qui avait son lot d'avantages selon Aline, responsable de la Grande Roue.
Il roule beaucoup plus tard que les bus, il est plus rapide. Donc je pense que quand même, moi j'ai constaté que beaucoup de personnes nous disaient qu'ils venaient avec le tram et repartaient en tram. Donc je pense que c'est positif.
Le tram n'est pourtant pas la solution à tout. Certains forains dressent un bilan à la baisse par rapport aux deux lucratives dernières années.
J'en attendais plus, mais de toute façon, ça on sait, on dépend du temps. Nous, c'est notre plus gros critère. Quand il fait mauvais, les gens ne sortent pas. Donc forcément, notre bilan est moins bon.
Les forains comptent encore sur les quelques derniers jours afin de dresser un bilan plus positif.
Vous pourrez encore aller déguster Lacmans et Croustillons jusqu'au 11 novembre. À l'international, début octobre, la plateforme d'ultra fast fashion Shein avait annoncé ouvrir son premier magasin physique au BHV, un grand magasin parisien. L'annonce avait déclenché un déferlement de critiques. Mais ce n'est pas la seule polémique qui a touché le géant chinois. Cette semaine, Shein a été signalée à la justice française pour avoir commercialisé des poupées sexuelles aux traits enfantins. Cette énième polémique n'a pourtant pas empêché la plateforme d'e-commerce d'ouvrir son premier magasin physique ce mercredi. D'ailleurs, nous apprenions hier soir que la commissaire européenne chargée des technologies allait rencontrer les ministres français pour discuter des poupées sexuelles vendues par le site d'e-commerce. Restons à l'international. Lundi prochain, la COP30 va se réunir à Belém, au Brésil. Elle réunira les signataires de plus de 180 pays, mais aussi des diplomates et secrétaires. Beaucoup s'interrogent. Est-il toujours utile que tant de gens se rendent si loin pour discuter du climat ? Pierre Rosaire, spécialiste de l'environnement.
Vous comprenez bien que la présence physique est indispensable. Quand les gens se rencontrent, ça raconte autre chose que si on doit avoir des échanges par mail ou des visioconférences. L'aspect émission de gaz à effet de serre lié à ces COP est largement inférieur à un championnat de Formule 1, par exemple.
Après 30 ans, est-ce que ces réunions annuelles de la COP sont toujours utiles ?
Ces réunions sont extrêmement utiles pour la simple raison qu'en fait, ça donne des échéances. Tu as des dates butoirs et aller au-delà, ça te disqualifie de la scène internationale. Alors évidemment, les décisions relatives au changement climatique, c'est très lent. Mais si on regarde 30 ans derrière nous, bah, en fait, on a quand même fait un fameux bout de chemin. Et pour avancer ensemble, parce qu'en fait, on est dans une problématique qui est globale, la COP30 est peut-être plus que les précédentes extrêmement importante parce qu'elle regarde l'enjeu climatique comme étant un enjeu 360 degrés. Bon, on va retrouver bien sûr les enjeux climatiques, mais également biodiversité, droits humains. C'est toutes ces choses qu'il faut absolument préserver.
Des propos recueillis par Axel Ofelinck. En culture, ce soir, le documentaire « L'empreinte toxique du phosphate » de Pierre Van Est sera diffusé à 19h au Centre polyculturel en résistance. Des journalistes, des chercheurs, mais aussi des citoyens militants seront présents. L'objectif, faire dialoguer la recherche, le journalisme, les luttes locales et écologiques, ainsi que les enjeux de santé publique. Le micro-festival commence à se faire connaître à Liège. Place maintenant au micro-show. Ces événements, organisés en intérieur, sont une déclinaison de l'édition estivale. Même philosophie, même direction artistique, même envie. Bref, le même ADN. Ces soirées sont organisées une à deux fois par mois, tout au long de l'année. Le 21e concert a eu lieu hier. Simon Loire nous y emmène.
Il est 20h30, le vieux lustre au plafond s'éteint et la musique inonde la petite salle, le tout avec un peu de retard, le temps que chacun trouve sa place dans la pénombre. Aucun doute, on est bien dans un événement similaire au micro-festival. Ici, on place l'humain au centre des préoccupations. Yannick Grégoire, un des programmateurs, nous confirme le but de ce micro-show.
C'est essayer d'amener des gens à être curieux et à venir voir des choses un peu... Je dirais pas qu'elles sont différentes, parce que c'est vraiment des styles qui existent. Ces groupes-là tournent partout dans le monde, mais peut-être quelque chose qui n'y a pas à Liège pour l'instant.
Un des gros atouts de ce genre d'événement reste leur taille, pointe du doigt un des spectateurs.
Il y a le fait que ça reste à taille humaine. Bah, on sait toujours bien qu'on rencontrera des gens qu'on connaît. Ce qui est bien, Mais ce qui peut aussi, comment dire, il y a le revers de la médaille aussi. Je suis peut-être un peu présomptueux, mais je pense qu'il y a des gens qui se réunissent là, vraiment pour être avec leur bande de potes.
Des bandes de potes pourtant trop peu nombreuses, la difficulté, nous dit Yannick Grégoire, c'est d'attirer du monde à cette période.
L'été, c'est très facile d'attirer du monde à un festival. En club, c'est pas la même chose d'attirer même ne fût-ce que 50 personnes à un concert un mardi soir. C'est pas gagné d'avance, donc en fait, on n'a jamais trouvé la formule idéale. Le modèle est pas du tout rentable, par exemple, et donc parfois, on se dit on devrait faire ça que le week-end, mais c'est justement ça, la base, c'est qu'en fait, le milieu culturel, artistique et musical, il est tout le temps en train de se recréer et de changer, donc en fait, on peut pas rester figé sur quelque chose.
Et tout de suite, les résultats sportifs avec Axel Ofelinck. Bonjour Axel.
Bonjour Amélie. En football, c'était la quatrième journée de la Ligue Europa. Le club belge KRC Genk l'emporte 4-3 contre le Sporting Braga. Toujours en football, en Coupe du Monde U17, les Diablotins ont écrasé les Fidji 0-7. Un sacré avantage pour peut-être s'imposer en huitième de finale.
Et il y aura aussi des sports automobiles ce week-end.
Oui, aujourd'hui débute le week-end du Grand Prix Moto du Portugal. Les premières séances d'essai viennent de s'achever. Alex Marquez, vice-champion du monde de MotoGP, du MotoGP 2025, est arrivé premier. Il faudra prêter attention à la performance du Belge Barry Baltus en Moto 2, l'antichambre de la catégorie reine.
En Formule 1, les premiers essais libres auront aussi lieu aujourd'hui. C'est au tour du Brésil d'accueillir le championnat du monde automobile le plus prestigieux.
Oui, ce week-end sera marqué par une course sprint, l'avant-dernière de la saison, en plus du Grand Prix. Le championnat des pilotes est en cours, la compétition y est rude. Lando Norris a repris la première place du championnat à un point seulement de son équipier, Oscar Piastri. Mais attention, Max Verstappen, le champion en titre, n'est pas à mettre de côté dans la course au championnat. Il se situe à 36 points de Norris, une remontée époustouflante pour Verstappen après le retard accumulé en début de saison.
En WRC, Sébastien Ogier a pris la tête du rallye du Japon.
C'est exact, le Français mène ce 13e et avant-dernier rallye de la saison. Il est en lice pour décrocher son 9e titre mondial dans la catégorie. Notre compatriote Thierry Neuville ne pointe qu'à la 7e place, à plus d'une minute du leader.
Et en tennis, les Masters féminins se tiendront cet après-midi.
Sabalenka affrontera Anisimova en demi-finale, alors que Pegula affrontera Rybakina.
Les fans de hockey sur glace auront un match à regarder ce soir.
Et oui, notre équipe de hockey, les Bulldogs de Liège, partiront pour l'Allemagne affronter le HC Newead. Le coup d'envoi aura lieu à 20h.
Une soirée et un week-end chargé en sport donc. Merci pour ces informations Axel. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bon week-end sur 48FM.